Chapitre 5, partie 1, texte 1, page 236. Robert Louis Stevenson, l'étrange cas du docteur Jekyll et de Mr. Hyde. Purifier la nature humaine.
Je suis né en l'an 1800. Héritier d'une belle fortune, doué en outre de facultés remarquables, incité par nature au travail, recherchant la considération des plus sages et des meilleurs d'entre mes contemporains, j'offrais de la sorte, aurait-on pu croire, toutes les garanties d'un avenir honorable et distingué. Et de fait, le pire de mes défauts était cette vive propension à la joie qui fait le bonheur de beaucoup, mais que je trouvais difficile de concilier avec mon désir impérieux de porter la tête haute et de revêtir en public une mine plus grave que le commun des mortels. Il résulta de là que je ne me livrais au plaisir qu'en secret, et lorsque j'atteignis l'âge de la réflexion, je me trouvais déjà réduit à une profonde dualité d'existence. Plus d'un homme aurait tourné en plaisanterie les licences dont je me rendais coupable, mais des hauteurs idéales que je m'étais assignées, je les considérais et les dissimulais avec un sentiment de honte presque maladif. Dans mon cas particulier, je fus amené à méditer de façon intense et prolongée sur cette dure loi de l'existence qui constitue l'une des sources de tourments les plus abondantes. Malgré toute ma duplicité, je ne méritais nullement le nom d'hypocrite. Les deux faces de mon moi étaient également d'une sincérité parfaite. Je n'étais pas plus moi-même quand je rejetais la contrainte et me plongeais dans le vice que lorsque je travaillais au grand jour à acquérir le savoir qui soulage les peines et les maux. Et il se trouva que la suite de mes études scientifiques projeta une vive lumière sur l'idée que je me faisais de cette guerre sempiternelle, livrée entre mes éléments constitutifs. De jour en jour, et par les deux côtés de mon intelligence, le moral et l'intellectuel, je me rapprochais donc peu à peu de cette vérité dont la découverte partielle a entraîné pour moi un si terrible naufrage. À savoir que l'homme n'est en réalité pas un, mais bien deux. Je dis deux parce que l'état de mes connaissances propres ne s'étend pas au-delà. D'autres viendront après moi qui me dépasseront dans cette voie, et j'ose avancer l'hypothèse que l'on découvrira finalement que l'homme est formé d'une véritable confédération de citoyens multiformes, hétérogènes et indépendants. Pour ma part, suivant la nature de ma vie, je progressais infailliblement dans une direction et dans celle-là seule. Ce fut par le côté moral, et sur mon propre individu, que j'appris à discerner l'essentielle et primitive dualité de l'homme. Je vis que, des deux personnalités qui se disputaient le champ de ma conscience, si je pouvais, à aussi juste titre, passer pour l'un ou l'autre, cela venait de ce que j'étais foncièrement toutes les deux. Et à partir d'une date reculée, bien avant que la suite de mes investigations scientifiques m'eût fait même entrevoir la plus lointaine possibilité de pareil miracle, j'avais appris à caresser amoureusement, tel un beau rêve, le projet de séparer ces éléments constitutifs. Il suffirait, me disais-je, de pouvoir caser chacun d'eux dans une individualité distincte pour alléger la vie de tout ce qu'elle a d'insupportable. L'injuste, alors, suivrait sa voie, libéré des aspirations et des remords de son jumeau supérieur. Et le juste s'avancerait d'un pas ferme et assuré sur son chemin sublime, accomplissant les bonnes actions dans lesquelles il trouve son plaisir, sans plus se voir exposé au déshonneur et au repentir causé par ce mal étranger. C'est pour le châtiment de l'humanité que cet incohérent faisceau a été réuni de la sorte, que, dans le sein déchiré de la conscience, ces jumeaux antipodiques sont ainsi en lutte continuelle. N'y aurait-il pas un moyen de les dissocier ?